Infiltrée, une femme au stup. Le stage undercover. Au ministère de l'Intérieur, une nouvelle unité avait été créée. La SCOAT, la section centrale opérationnelle d'assistance technique. C'était la crème de la crème. Un service qui recrutait des undercover, des agents sous couverture, qui ne faisaient plus un travail ordinaire de policier, mais qui prenaient d'autres identités pour pénétrer des groupuscules criminels. Il faut savoir qu'en matière de stupéfiants, on peut faire ce qu'on appelle de la pénétration de milieu. Mais on n'a pas le droit de faire de la provocation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pousser les gens à vendre de la drogue ni à devenir délinquants. Mais on peut feindre, pour infiltrer un réseau, de se lier à un trafiquant qui recherche de nouveaux collaborateurs pour son organisation ou qui a besoin de clients, eux-mêmes dealers. Le but d'une opération d'infiltration, c'est d'apporter à la justice la preuve qu'un délit ou un crime a été commis. Cette SCOAT, qui était un petit service à l'époque, avait déjà recruté certains de la brigade des stupes qui faisaient des coups d'achat, mais après qu'ils avaient réussi les épreuves du stage de formation. Le chef du service, qui n'était plus Michel Boucher, me propose, ainsi qu'à deux de mes collègues, de participer à ce fameux stage undercover. J'accepte avec enthousiasme, d'autant plus que mon camarade José, celui qui m'aide tant par ses conseils, en a déjà bénéficié. Le stage undercover n'est pas un stage physique. Il est basé essentiellement sur la force intérieure, psychologique, la capacité à convaincre, à tenir sa légende, à rester lucide dans le dédoublement de sa personnalité, à jouer constamment un rôle tout en gardant clairement à l'esprit pourquoi on est là. Il ne faut pas épouser la cause de l'autre ni être piégé par l'affect, car on peut tomber sur un adversaire, homme ou femme, extrêmement séduisant et attachant. Le stage apprend à être sûr de soi et à rester soi-même, à ne jamais oublier qu'on est d'abord un policier en mission qui a pour but de mettre au jour un trafic de stupéfiants. Donc, on nous fait faire des exercices pour savoir jusqu'où chacun est capable d'aller pour accomplir sa mission le mieux possible. Il s'agit d'arriver à dépasser ses blocages psychologiques et sociaux, la peur du ridicule, et de savoir être crédible, cohérent, tout en jouant la comédie. Évidemment, on donne des rôles adaptés à chaque personnalité et à l'apparence du candidat. Enfin, être choisi pour participer à ce stage ne signifie pas qu'on va le réussir. Je savais d'avance que si je ne sortais pas victorieuse de cet apprentissage particulier, je retournerais dans mon service, avec juste la blessure d'ego de ne pas avoir été sélectionnée. La difficulté même de cette formation me réjouit d'avance. Je me creuse la tête pour imaginer les épreuves physiques et psychologiques que j'aurai à passer. Pendant les semaines précédant le stage, je secoue fréquemment mon pote José. « Allez quoi, donne-moi des indications. Il faut que je me prépare à quoi ? Que je prenne 5 kilos parce qu'on va m'empêcher de manger ?» Il riait. Il me surnommait Poppy, parce qu'en anglais, Poppy, cela veut dire pavot ou coquelicot. Il ne lâche pas un mot sur le secret des épreuves, mais il me rassure. Mais non, Poppy, sois comme d'habitude, ça se passera bien. En fait, je ressens une angoisse particulière, parce qu'il n'y a jamais eu de fille dans ce stage undercover. Et je suis certaine que cela sera d'autant plus compliqué. Ce stage a été pensé spécifiquement pour des hommes, par des hommes, pour infiltrer un milieu d'hommes, et non pour des femmes. Les formateurs n'ont sûrement pas encore réfléchi à cette problématique. Malgré les difficultés imaginées, je reste persuadée que mon goût pour la compétition et le surpassement sera comblé. Juste avant mon départ, j'explique à mes parents que pendant tout ce temps, quoi qu'il advienne, je ne pourrai ni leur téléphoner ni leur répondre. Enfin, en septembre, je pars pour ce stage tant attendu et redouté. Une parenthèse de 10 jours dans un lieu secret où je serai complètement coupée du monde. Avant de faire le stage, j'ai donné ma parole. Je ne raconterai pas les épreuves et les exercices. Je peux donc juste dire que nous étions une quinzaine. Les participants venaient de toute la France, Antilles comprises. Au début, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. C'est un truc plein de testostérone, de rivalité. Je devine que certains se disent en me regardant « C'est qui cette blondasse ?» ou « Oh, une gonzesse, qu'est-ce que c'est que ce Beans ?» Heureusement, j'ai deux copains avec moi, ce qui me rassérène. On nous plonge dans des situations extrêmes. J'essaye de ne pas me laisser décourager, de surmonter ce qui peut être difficile pour moi. Je vais puiser loin dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, parce qu'il n'est pas question que je lâche. Un matin, un type a lancé « Moi les gars, je me casse, j'en ai marre !» Et il est parti. J'ai déjà dit que je n'aimais pas l'échec. J'ai une motivation supplémentaire, purement égoïste. Je suis la première et la seule fille du stage. Et puisqu'en Hollande et aux États-Unis, des femmes l'ont réussi, moi aussi, j'irai jusqu'au bout. Au cours de ces journées si particulières, je me sens seule avec moi-même. On juge constamment ce que je suis capable d'accomplir et d'inventer rapidement face à l'adversité. Ma solitude est accrue du fait que je suis la seule fille et que je dors dans une pièce à part. Les autres ont la possibilité de parler entre eux, de se distraire peut-être, lorsqu'ils se retrouvent en chambre double. Moi non. La nuit, quand je ne dors pas, je gamberge. Je sais qu'on peut m'appeler à tout moment pour un exercice. Tout est imprévisible, subi. À chaque fois, on m'évalue, on me note, sans me dire ce qu'on pense de ma prestation. Il y a tout un staff quand on est en exercice, mais nous ne sommes pas tous au même endroit. J'ai une sorte de tuteur, un agent couvrant, toujours derrière mon dos, qui me jauge. Ce n'est pas toujours le même. Il y en a un avec qui j'ai nettement plus de feeling. Un jour, je refuse un exercice. Il me secoue, il m'attrape par les épaules. Il me dit « Je t'explique à nouveau. Tu as 5 secondes et tu le fais parce que je sais que tu es capable de le faire. Si tu ne le fais pas maintenant, tu rentres chez toi et ce soir c'est terminé. Tu es une pépite. Je ne suis pas d'accord pour que tu renonces. » Je pleure. Il ne cède pas et je fais l'exercice. Je n'ai jamais oublié ce ressort-là, cette capacité cachée en moi. Et je m'en sers encore dans ma vie actuelle, lorsque je suis confrontée à des choses très dures. C'est comme quelque chose qui est vissé en moi et qui se réveille quand il le faut, qui est devenu une sorte d'automatisme. Je lui en serai reconnaissante toute ma vie. Il m'a appris à aller au-delà de ce que je croyais pouvoir accomplir, tout en me valorisant. Il a eu un rôle très important, le même qu'il aurait eu au cours d'une vraie mission. C'est le rôle de celui qui te booste, qui te redonne un coup d'énergie, qui reste attentif à toi. Il faut revoir le film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, pour comprendre quelle sorte de milieu nous avons infiltré. Jusque-là, à la brigade des stupes, je faisais des affaires courtes, des coups d'achat one shot, comme on dit. Même dans le cas d'affaires comme celle du Colombien qui a duré 3 semaines, je finissais toujours par rentrer chez moi le soir. Le stage undercover nous prépare à des infiltrations beaucoup plus longues et bien plus dangereuses. Le dernier jour, on nous réunit dans une salle et j'apprends que je suis reçue. Sans plus de cérémonie, pas même un petit speech de nos tuteurs au micro. Je suis extrêmement fière d'avoir réussi, tout comme mon camarade Didier. Nous retrouvons notre groupe au 36 quai des Orfèvres. J'ai l'impression d'être partie très loin et très longtemps, Peu de temps après, Mario, le chef de la squat, se déplace jusqu'au 36 pour parler à mon patron. Il veut que je devienne un des agents undercover de son service. Il ne me reste plus qu'à être validé complètement par un psy. C'est un honneur pour moi. Mais mon boss, le numéro 2 des stups à l'époque, s'oppose à ce qu'un psy achève de valider ma réussite et que je fasse partie des agents spéciaux de la SCOAT. Il refuse catégoriquement de me passer à un autre service. Il est fréquent que le patron hésite à donner à un autre département ses fonctionnaires. Il se dit, souvent avec raison, que s'il en laisse partir un, il ne sera jamais sûr qu'on le remplacera. Et même le chef de la SCOAT ne l'en fait pas démordre. J'essaye de me défendre, d'expliquer. Rien à faire. C'est non, définitivement. Je suis très en colère. Vous décidez de ma vie? Je ne suis qu'un pion pour vous. Vous savez combien j'ai été bonne. Ils vous l'ont dit. Là, c'était donner des verges pour me faire battre. Eh bien justement, je préfère vous garder dans mon service. Je n'avais que 30 ans et je prenais très mal ce dictat. J'avais mis tout mon cœur, toutes mes tripes, toute ma volonté pour être reçue à ce stage. Il me semblait que ma réussite rejaillissait sur notre groupe. Cela voulait dire que nous, le groupe en quête des stups, nous étions des fortiches, des alphas comme on dit dans notre jargon. Et tout me paraissait soudain vain. Ce n'est pas qu'une blessure d'ego. Je le prends dramatiquement. L'épreuve était démesurée si c'était pour en terminer là. Je me sentais rompue. Et je ne supporte plus qu'on décide pour moi de ma carrière. Pourtant, j'ai toujours été très respectueuse de ma hiérarchie. Il m'est arrivé de discuter des ordres, mais je n'ai jamais été une rebelle. Et j'ai toujours exercé mon métier tel qu'on me le demandait. Ce blocage, cet empêchement à devenir un agent undercover à part entière pour des raisons pitoyables de service, me laisse désillusionner. C'est une cassure dans ma carrière. Maigre consolation, Didier, le camarade qui a été reçu comme moi, est puni de la même façon. On en discute, on jase ensemble. Cela fait comme une soupape. Didier est un type épatant, posé, intelligent. Alors qu'il vit la même injustice que moi et qu'il le vit mal, il parvient à garder plus de distance. Peut-être parce qu'il est plus introverti. Au cours des semaines suivant notre retour, je reviendrai plusieurs fois à l'attaque. Je tente des négociations improbables. Je pourrais rester dans le service et être agent undercover seulement de temps en temps. Le patron reste buté comme un âne. Je finis par lui lancer. « Alors pourquoi vous m'avez fait faire le stage, hein ?» Il prend un air satisfait. « Je voulais que vous deveniez les meilleurs. Notre service y avait tout à gagner. Mais je n'ai jamais eu l'intention de vous laisser partir. » Les prises de bec se multiplient. J'en ai ras la casquette. Je ne veux plus m'impliquer. Je suis dans une sorte d'état de dépit amoureux, mêlé de rancune. L'histoire d'amour avec ma carrière semble finir en eau de boudin. Et je le ressens d'autant plus fort que ma vie est alors uniquement tournée vers mon travail. Je n'ai pas encore d'enfant et juste 2 chats. Oui, 2. Car j'ai trouvé un copain pour le chat Nikita. Et ce 2e chaton va m'entraîner vers une autre aventure.